Bonjour à tous, merci d'écouter Fréquence Mistral. C'est l'heure de Force 7, le magazine d'information régionale de Fréquence Mistral, proposé et présenté par François Malabave. Bonjour François.
Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Sommaire de ce magazine, Gréou a accueilli les Assises nationales des randonnées et activités de pleine nature, une première pour le 04 et où il fut question du changement climatique. Rendez-vous économique et populaire, c'est parti pour la foire exposition de Sisteron. L'agglomération manosquine consulte sur la question des déplacements et transports l'interview de Claude Chélan dans ce magazine. Une boutique à l'essai prend son envol à Digne, le reportage d'Odile Frison pour Force 7. Dimanche 10 octobre a lieu le trail de Gréou-les-Bains, l'interview de l'organisatrice Florine Renard dans un instant. Et puis à Marseille, l'association Carouane va célébrer la mer avec une série d'animations dès ce dimanche, le reportage de Colline Jutet en fin de magazine. Randonnée et pleine nature, il va falloir s'adapter.
C'est un des effets déjà visibles sur les territoires. Le réchauffement climatique impose des changements de pratiques. Une des réflexions majeures des 9e Assises nationales des randonnées et des activités de pleine nature que Gréou-les-Bains accueillait sur 2 journées. Et les stations de ski ne sont pas les seules impactées. Les courants aériens évoluent et perturbent les adeptes du vol à voile, par exemple, et pire, d'ici quelques années, la végétation ou le cycle des saisons et les aléas naturels seront modifiés. Déjà, une randonnée à vélo en Provence à 14 heures n'est pas conseillée, et pas forcément seulement l'été. Les cours d'eau et lacs asséchés n'attirent plus en saison de plus en plus chaudes. Face à ce constat et aux sombres annonces des scientifiques, les professionnels du tourisme, associations et collectivités s'unissent pour randonner différemment et adapter leur offre. Car la ressource existe, paysages, sentiers de randonnée, massifs et cours d'eau sont légion dans la région sud, mais il faut préserver ces richesses naturelles et maîtriser les flux touristiques. C'est l'enjeu actuel que les intervenants ont ciblé. Sport, biodiversité, responsabilité et sécurité, écotourisme et pérennité des milieux naturels, comme le développement économique, furent au centre des débats des acteurs et partenaires. En préambule et après l'accueil des participants par le maire de Gréou, Paul Audan, la préfète des Alpes de Haute-Provence, Violaine Desmarais, était toute ouïe et avançait à leur endroit un triptyque « adaptation, coordination et cohabitation ». La certitude et les chamboulements du réchauffement climatique ne peuvent plus être niés. Le plan Avenir Montagne de l'État et des régions va apporter 300 millions d'euros au secteur, dont 34 pour les massifs alpins. Des programmes et fonds européens vont également dans le bon sens, de même que les initiatives comme le pôle montagne que le 04 est en train de créer. D'autres actions aussi échelonnées sur les 4 saisons pour diversifier l'offre touristique sans fragiliser les territoires. Je vous propose d'écouter la présidente du conseil départemental des Alpes de Haute-Provence, Eliane Bareille, qui évoque aussi l'inauguration du GR69, la Routeau, des chemins de transhumance reliant la Croix et le Piémont, sentier XXL, promis un bel avenir. Nous entendrons aussi Chantal Emeoud, vice-présidente de la région Sud, confirmer la mobilisation de la collectivité aux côtés de l'Europe. Hélène Barret, vous présidez le département des Alpes de Haute-Provence. C'est une belle opportunité pour Gréou-les-Bains et le 04, ces assises.
Bien sûr, c'est 2 journées formidables dans un département qui, évidemment, est tout adapté pour recevoir les assises de pleine nature, avec ses montagnes, avec ses paysages remarquables, les gorges de Verdon, puisque nous sommes ici à proximité des gorges du Verdon. Je pense qu'on avait tout naturellement notre place dans ces assises nationales.
Beaucoup de partenaires qui sont là, qui viennent d'Europe d'ailleurs. C'est la première fois que ces assises ont une aura européenne. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent au tourisme. Et d'ailleurs, vous faites la liaison et vous faites une distinction entre le tourisme durable et le tourisme nature.
Tout à fait, parce que pour moi, le tourisme durable, d'abord, je pense que ça ne parle pas vraiment aux citoyens lambda. C'est quelquefois un peu difficile à appréhender. Tourisme nature, tout le monde sait ce que ça veut dire. Et dans des départements ruraux comme les nôtres, parler de nature, parler d'activités de pleine nature, parler bien sûr de sport et de randonnée, il me semble que c'est tout adapté. Donc c'est pour ça que je préférerais que nous parlions de tourisme nature. Je l'ai d'ailleurs dit et fait savoir au service. Je pense que nous allons modifier l'intitulé de notre schéma touristique.
L'un des mots-clés, c'est l'adaptation, aussi bien par rapport à la crise sanitaire, la crise écologique et puis bien sûr les crises sociales qui nous immergent.
Bien entendu, nous venons de traverser quand même des mois très 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 difficiles. Aujourd'hui, chacun doit retrouver sa place et chacun doit pouvoir reprendre ses activités. Et dans des départements, je redis, très ruraux, comme celui des Alpes de Haute-Provence, évidemment, ça laissera probablement des traces.
Avec aussi un projet d'avenir magnifique, d'Arles jusqu'à Cuneo, c'est la Route.
Oui, tout à fait. Je suis très fière que ça se passe ici, cette inauguration de la Route, parce que quand j'étais vice-présidente à la région, j'ai beaucoup contribué à la réalisation de ce sentier, hein, puisque c'est, il faut le rappeler, un ancien sentier de transhumance qui part donc de Arles jusqu'à Cuneo. Et avec la maison de transhumance, qui est d'ailleurs ici présente, nous avons énormément travaillé. La région répondu présente au travers des GAL leaders, et c'est une vraie réussite aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle je suis très fière qu'il soit inauguré. Ici, à Gréoux-les-Bains, dans ce département.
À vos côtés, Eliane Barré, quelqu'un que vous connaissez fort bien, qui est vice-présidente de la région. Vous l'avez été vous-même à un moment. Chantal Emeaud, vous êtes présente ici même à Gréoux-les-Bains. Vous avez évidemment entendu tous les partenaires de l'opération et la région est à leur côté.
Bien sûr, la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui est très active sur le sujet du tourisme durable, du tourisme nature, à la fois par une implication financière forte, puisque au niveau du plan montagne, que j'ai l'honneur de conduire, à la demande de Renaud Muselier, nous allons investir, à partir de maintenant, plus de 100 millions d'euros, qui vont d'une part permettre aux stations de sport de montagne d'assurer l'activité ski à travers la sécurisation de la neige, mais également, et c'est le volet probablement le plus important, de pouvoir diversifier les activités, ce qui correspond aujourd'hui à une attente très forte de la part de nos concitoyens, y compris des touristes qui ne cherchent plus à avoir un tourisme de masse, mais qui au contraire veulent pouvoir pratiquer une activité touristique de façon apaisée, organisée donc souvent autour des familles, pour ceux qui veulent faire vraiment du sport de façon très très forte. Nous offrons les conditions pour, et ceux qui attendent aujourd'hui autre chose, et ils sont de plus en plus nombreux, là aussi nous y travaillons beaucoup. Donc 100 millions d'euros pendant la durée du mandat, mais également 100 millions d'euros pour aider les espaces valéens à construire également des activités touristiques, économiques également, mais principalement liées autour du tourisme, et par conséquent des activités de pleine nature, de façon à ce qu'il y ait une cohérence entre à la fois les stations de sport de montagne, mais également les vallées qui ne doivent pas rester en reste, mais qui au contraire doivent pouvoir bénéficier également de cet afflux touristique qui doit être partagé. Par ailleurs, nous travaillons au niveau de la région en lien fort avec la SUERA, qui est la stratégie de l'Union européenne pour la région alpine, avec les 5 autres pays d'Europe qui sont concernés par les Alpes, la Suisse, l'Italie, l'Autriche et la France, de façon à ce que là aussi il y ait une vision partagée, de manière à ce que la dépense publique européenne elle puisse être d'une part équilibrée, mais d'autre part travailler de façon coordonnée, parce que globalement ce qui est important, c'est que nous nous dirigeons tous vers un but commun, qui est ce partage d'un tourisme nature, d'un tourisme durable, d'un environnement de qualité, poursuivre le développement de nos montagnes, mais préserver notre environnement qui est fragile. Nous y sommes tous extrêmement attachés et c'est aussi l'un des grands enjeux de l'engagement de l'Union européenne à travers la SUERA, donc cette stratégie de l'Union européenne, à travers les financements auxquels abonde très largement la région.
Fragilité, c'est le dernier mot du discours de Joël Giraud, qui était resté à Paris et que vous connaissez fort bien, élu du département des Hautes-Alpes. Vous êtes vous-même d'ailleurs maire d'Embrun. Cette connaissance du territoire, ça aide évidemment quand on a après les rênes de la région et voir la jonction avec l'Europe.
Absolument. Moi, je suis maire d'Embrun depuis 20 ans, présidente de la communauté de communes de Serre-Ponçon depuis le même temps aussi. C'est une expérience qui nous permet d'avoir la tête sur les épaules, les pieds sur terre. On a souvent les mains dans le cambouis, si je peux me permettre cette expression. Et du coup, on prend du recul. On est forcément contraint par des logiques qui parfois s'opposent. Ce qu'il nous faut, c'est être pragmatique, sortir du dogme qui souvent, malheureusement, ne sert à rien, mais au contraire, faire la part des choses et travailler en bonne intelligence, à la fois avec les services de l'État, mais avec l'ensemble des partenaires, y compris les acteurs locaux, les socioprofessionnels qui constituent l'une des forces vives de ce territoire. Et le fait d'avoir un mandat d'élu local est extrêmement utile pour compléter l'approche régionale qui est très intéressante, mais qu'il faut vraiment adapter au territoire. Je suis une Européenne convaincue, mais je suis également donc très favorable à la décentralisation parce que je pense que les politiques qui sont les plus réussies sont celles qui sont bâties à partir des territoires. Ce sont les territoires qui connaissent le mieux les difficultés, les forces et les faiblesses de leur secteur.
La Foire Expo de Sisteron, rendez-vous incontournable.
L'édition 2021 de la Foire Exposition de Sisteron se déroule du jeudi 7 au dimanche 10 octobre sous chapiteau, place de la République et allée de Verdun. Bel événement local, la Foire réunit chaque année plus de 100 exposants des secteurs de l'artisanat, de l'habitat, de la gastronomie et du commerce et propose également un salon de l'automobile et le dimanche après-midi un grand gala de variétés gratuit. C'est un rendez-vous économique qui sait être populaire. Jean-Pierre Bois, président de la Foire Exposition, et Jeannette Blanc, secrétaire de l'association, présentent l'événement au micro de Chris Alessandri.
Jean-Pierre Bois, une Foire Exposition de Sisteron qui, le moins qu'on puisse dire, s'est fait attendre.
Et oui, bonjour. Le renouveau et le retour de la Foire Exposition de Sisteron, puisque l'année dernière, faute à cette grande pandémie mondiale, la Foire de Sisteron, 37e du nom, n'a pas pu avoir lieu. Donc cette année, la Foire de Sisteron, 38e donc édition, si on ne compte pas celle qui était annulée, démarrera jeudi matin à 10h, ouverture de la foire au public de Sisteron et des alentours.
L'an dernier, ça avait été une grosse déception pour le comité organisateur, avec cette foire qui était annulée pratiquement au dernier moment. Est-ce qu'on peut dire que cette année, il y a un second souffle? Comment vous le ressentez, ça?
Alors, il y a un second souffle. Alors, surtout l'année dernière, pour revenir très peu de temps sur le passé, la foire a été annulée même pas un mois avant, avec la foire complète au niveau des exposants. Les animations étaient engagées, tout était engagé. Et puis, un mois avant, on a annulé la foire exposition. Alors, c'est vrai que mon conseil d'administration qui m'entoure et notre secrétaire, s'est trouvé un peu le bec dans l'eau. Tout arrêté au dernier moment, tout annulé. Et ça a été assez compliqué, mais on a annulé. Cette année, donc, on repart avec la même équipe. Ça se présente bien. Les exposants sont venus également à notre secours et seront là présents pendant la foire exposition, malgré tout avec des consignes assez drastiques de la part de l'ARS, de la part de la préfecture, avec bien sûr le pass sanitaire comme il doit se faire en ce moment, et puis on va y arriver.
Alors là, vous l'avez dit, il faut faire face à de nouvelles exigences, particulièrement bien établies, qu'il va falloir respecter. Du style, est-ce que l'expansion de la foire reste la même? Est-ce que l'emplacement reste le même? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui va changer?
Alors la foire exposition a toujours lieu en plein centre-ville de Sisteron, sur la place de la République, devant la mairie et le salon de l'auto, où l'exposition de véhicules neufs sur le bas de la route nationale, du côté des tours de Sisteron et de la cathédrale. Mais par contre, sur l'emplacement où nous sommes, sur la place de la mairie, des modifications sont apportées. Elle sera complètement fermée et ceinturée de barrières de haute hauteur avec des pointages à l'entrée du pass sanitaire. Il y aura le jeudi et le samedi l'ARS qui viendra faire des tests pour ceux qui ne sont pas vaccinés pour pouvoir pénétrer dans l'enceinte de la foire exposition. Et puis ce qu'il y a aussi, c'est que certaines choses ont été modifiées. Les emplacements où on avait des pagodes, ça a été refusé. Donc on n'a pas pu mettre les pagodes et on ne pouvait pas non plus mettre le podium dans la rue de Provence ou la rue de la Poste, parce que c'était pas dans l'enceinte de la foire, et comme là aussi il faut un pass sanitaire, c'était pas concevable. Donc à la place des pagodes, on aura cette place là pour les animations, pour les spectacles, pour l'inauguration. Malgré tout, nous sommes complets, nous attendons à Sisteron à peu près 80 exposants plus le salon de l'auto, donc une centaine d'exposants à Sisteron où on est un peu plus concentré et réduit les surfaces pour certains.
On sait que le plaisir culinaire a sa place également à la foire exposition de Sisteron, avec des dégustations, des points comme ça d'animation. Est-ce qu'on va y retrouver ces points d'animation?
Alors les points d'animation, ils y seront. Comme là, vous venez de parler de tout ce qui est buvette, entre autres, avec nos collègues du comité des fêtes, la buvette sera bien présente, mais bien sûr, sans comptoir, on ne pourra pas s'attrouper autour d'un comptoir comme on avait l'habitude de le faire. La buvette sera à l'extérieur de la structure, mais sera présente.
Jean-Pierre Boisse, qui est également lié à la notoriété de la foire exposition, c'est le spectacle gratuit, les vedettes qui viennent, les marraines qui sont là à l'ouverture. Comment ça se passe cette année?
Eh bien, comme les autres années, donc ça fait 38 ans qu'on a des marraines à Sisteron ou des parrains à la foire exposition. Cette année, c'était compliqué parce qu'avec cette pandémie, certains artistes ne peuvent pas venir, ne peuvent pas se déplacer ou ont des contrats de notoriété avec des chaînes de télévision françaises style TF1 où on avait prévu quelqu'un qui ne peut pas venir parce qu'on lui a interdit de venir, parce qu'elle est en tournage. Donc on est arrivé quand même à récupérer comme marraine à la foire de Sisteron quand même quelqu'un d'une grande notoriété qui est Vanessa Debruy, qui tourne en ce moment sur plusieurs épisodes de séries sur TF1. Donc elle sera quand même présente à Sisteron le jour de l'inauguration.
Vu l'espace qui vous est octroyé et vu également les conditions de sécurité qu'il faut respecter, est-ce que vous avez dû, par exemple, refuser à certains exposants de venir cette année?
Alors déjà, certains ne peuvent pas venir à cause de ce pass sanitaire, parce que bon, c'est compliqué, mais on est complet et on a beaucoup d'exposants dans la foire de Sisteron et on est obligé d'en refuser, forcément, puisqu'on nous a contraint l'espace exposition à une structure de 2000 m². Donc on a essayé de mettre tout le monde dans 2000 m², mais à un moment, on peut pas pousser les murs.
Concert gratuit dimanche, on est d'accord. Et on retrouve sur scène quelqu'un de notoriété et de valeur aussi.
Ah oui, de notoriété et de valeur, c'est le groupe Aioli qui se nomme être mondialement connu dans le Var et dans la région PACA, avec son leader Yves Pujol, qui seront présents donc sur la foire exposition dimanche en concert gratuit à partir de 15h. Et certainement, ça va durer parce que bon, Yves Pujol, c'est un grand comique également. Donc je pense qu'on va passer un bon moment.
L'ouverture, elle est gratuite sur tous les jours de la foire exposition.
Oui, la foire exposition de Sisteron, elle est gratuite. Alors, changement aussi cette année, on ouvre un jeudi au lieu d'un vendredi. La foire dure 4 jours, donc fermera le dimanche au lieu de fermer le lundi. Donc jeudi matin, ouverture à 10h, inauguration à 10h30 avec toutes les autorités départementales. Et je sais qu'il y aura du beau monde à Sisteron encore une fois de plus, avec Vanessa Debruy. Le vendredi, on va s'amuser également avec un groupe musical sur la foire et la ville, avec le groupe Cartoon Show qui est très connu également. Le samedi après-midi, toujours en concert gratuit Orphéa. Et puis on a aussi des baptêmes de l'air en hélico tout le samedi. Et puis bien sûr, le dimanche, le groupe Aioli. Et la foire se terminera dimanche soir à 19h.
Que ressent un président quand il voit cette foire se structurer et ça y est, elle va avoir lieu?
Ça nous fait plaisir parce qu'on anime la ville, on anime le tissu économique du commerce sisteronais local, que ce soit les bars, les restaurants et puis les commerces avec lesquels on est habitué à travailler, avec son président Nicolas Logier, président de la PACS, où les commerçants jouent au jeu également d'être présents à la foire exposition et puis d'être ouverts peut-être pour certains dimanches. Parce que bon, la foire exposition, c'est pas que la foire, c'est tout ce qui gravite autour, les bars, les hôtels, les restaurants, les commerces. Et on est là pour dynamiser la ville de Sisteron.
Jeannette Blanc, vous faites partie du comité de la foire exposition de Sisteron depuis combien de temps?
Depuis 30 ans cette année, je suis rentrée le 1er juillet 1991.
30 ans, c'est toute une vie, c'est toute une passion sans doute aussi. Pourquoi cette durée au sein même de cette association et puis cette grande famille?
La durée, c'est vrai que peut-être que quand j'y suis rentrée, je ne pensais pas rester aussi longtemps. Et puis bon, c'est vrai qu'on est au fil du temps une bonne équipe. C'est des amis maintenant, l'équipe du comité de Foire Expo. C'est vrai qu'une bonne entente, un bon travail ensemble et je suis contente d'en faire partie depuis 30 ans. Et j'aurais jamais cru rester aussi longtemps. C'est vrai que bon, on s'entend bien. Après le travail, c'est vrai que bon, on se voit régulièrement avec les responsables, on se voit régulièrement, on s'appelle quand on peut pas se voir. C'est vrai que dans le travail, il faut s'y tenir, mais ça se passe très bien.
Accessibilité et mobilité, présent et futur dans la DLVA.
En zone rurale, la question des déplacements est cruciale. C'est aussi un dossier majeur de Durance-Luberon-Verdon agglomération et complexe car s'ajoute à la problématique de la collectivité les besoins de chaque commune dans leur diversité et les liaisons avec d'autres collectivités, départements et régions notamment. Ayant confié la gestion des transports communautaires à la société Transdev, l'agglo doit cependant établir un schéma d'accessibilité. Celui-ci concerne bien sûr les personnes à mobilité réduite, souvent en fauteuil roulant, mais aussi les déficients visuels et auditifs auxquels s'adressent des outils d'information adaptés. l'accessibilité des véhicules du Transaglo, des arrêts spécifiques comme un site internet ou encore la formation des conducteurs. À cette dynamique s'ajoute une large concertation pour entendre les demandes de la population, usagers ou non. Un questionnaire en ligne a reçu près de 400 réponses et deux ateliers thématiques ont lieu les 6 et 19 octobre. Je vous propose d'écouter Claude Chélan, vice-président délégué au transport, mobilité et déplacement, qui a tenu un point presse sur le sujet aux côtés du président de la DLVA, Jean-Christophe Pétrigny. Il évoque d'abord les rapports entre l'agglomération et son partenaire prestataire, Transdev. Claude Chélan.
C'est une très bonne coopération que nous avons entre les deux. Transdev est, je dirais, était déjà implanté dans les environs. C'est une force de proposition. On est sans cesse en recherche de synergie, en recherche d'amélioration du transport. Ça se passe très bien. On a des gens très compétents en face de nous. Ils ont investi sur le secteur. Ils sont ouverts à toute piste d'amélioration, notamment les bus qui marchent au gaz routier. Bien sûr, on se préoccupe dans le futur des bus à hydrogène et le dépôt, le magnifique dépôt qui a été fait dans la zone Saint-Maurice, qui, quoi qu'il advienne en fin de DSP, restera de toute façon dans le giron de la DLVA. Donc on travaille, je dirais, en toute confiance et ils sont sans cesse eux aussi à nous faire des propositions pour améliorer ce service.
Vous avez lancé une grande consultation numérique sur justement les questions de mobilité et d'accessibilité, car c'est de votre ressort maintenant. Comment ça s'est passé ?
C'est quelque chose qui est relativement facile maintenant à mettre en place. Les gens sont rodés, donc c'est peut-être plus facile de répondre, je dirais maintenant, sur un questionnement qui est fait sur Internet plutôt que de faire une démarche, d'assister à une réunion ou autre. Les gens n'ont pas forcément le temps ou ne prennent pas leur disposition pour faire cela. Donc l'avantage, c'est que ça ouvre. Alors après, ça a peut-être aussi le défaut de réduire, je dirais, l'éventail de personnes qui peuvent répondre. C'est souvent des personnes plus jeunes, en fait, qui répondent, qui ne viendraient pas à des réunions. À l'inverse, c'est pour ça qu'il faut qu'on maintienne aussi les ateliers pour pouvoir consulter la population en présentiel, parce que bon, il y a quand même une partie de nos usagers qui, eux, au contraire, ne sont pas forcément connectés et ceux-là sont en demande de réunions physiques.
Avec un résultat de ces ateliers, justement, au printemps 2022, nous suivrons ça avec grand intérêt. Claude Chélan, on sait que la mobilité dans un territoire rural, c'est un problème.
Dans les zones rurales, c'est en fait la densité de population qui ne nous permet pas d'être efficient. Parce que vous avez peu de cadencement, les lignes pour se rendre à la ville-centre, c'est beaucoup plus long. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Il est évident qu'on ne peut pas comparer les chiffres de la DLVA avec des densités de population, comme il y a notamment aux alentours de Marseille et des villes périphériques. Parce que là, vous pouvez vous permettre de mettre un gros cadencement, vous pouvez vous permettre d'améliorer tous ces services-là. Donc c'est quand même quelque chose de beaucoup plus facile à mettre en place. Nous, on a de très très petites communes qui sont éloignées de Manosque, sur lesquelles on ne pourra pas avoir la même offre jamais, pour des raisons de rentabilité. Et puis bon, le grand reproche qu'on nous fait, c'est justement que d'avoir des bus qui risquent de voyager vide. Et là, on ne comprendrait pas qu'on dépense beaucoup d'énergie et beaucoup de financement pour avoir des bus avec une ou deux personnes à l'intérieur.
Alors on va en profiter pour faire un petit peu de communication, rappeler aux personnes que maintenant on peut utiliser les bus scolaires, un voyageur peut monter dans un bus scolaire, et puis vous avez également parlé de l'intérêt des pédibus qui se développent sur le territoire de la DLVA, mais également, et vous avez pointé du doigt, le manque de certains usagers, et en tout cas de certains voyageurs, en ce qui concerne le covoiturage.
En fait, tout est complémentaire. Et tout ce qui peut être mis, je dirais, autour de la table pour permettre un partage de la mobilité est très intéressant. Effectivement, à l'initiative de quelques communes, on a démarré des lignes de pédibus sur Vinon, donc, qui est ma commune. On a mis en place cela depuis 4 ou 5 ans. Ça marche vraiment très bien. Les parents sont en demande. On a plus d'une centaine d'enfants qui sont tous les matins accompagnés par des bénévoles jusqu'aux écoles. Alors, c'est pas quelque chose chose qui est dans le giron de la DLVA, mais je dirais que c'est quelque chose qui est complémentaire en fait au transport que l'on a. Nous, on a donc des bus le matin qui rapatrient les enfants vers le collège de Vinon, et ensuite on a bien sûr la grande partie des enfants qui sont ramenés vers Manosque et qui notamment vont au lycée à Manosque. Donc là, on a besoin de la DLVA. Par contre, toutes ces réflexions qui vont toucher au mode de transport qu'on appelle maintenant doux, faciliter les gens pour qu'ils puissent marcher à pied, les regroupements, toutes les zones de covoiturage. Avec la grande difficulté, c'est que le covoiturage chez nous a quand même pas mal de difficultés pour prendre, parce que bon, ben, à l'instar de tout ce qui se passe dans notre pays, la voiture c'est quand même la liberté, et que les gens sont bien, sont dans un espace privatif dans leur véhicule, et pour respecter, je dirais, leur organisation et leur activité qu'ils ont notamment en soirée, ils prennent leur véhicule, et je le touche du doigt puisque je suis traversé par 14 000 véhicules au jour, notamment pour des gens qui se rendent et qui reviennent de Cadarache et d'Iter. Donc quand on regarde, on voit souvent les gens, soit ils sont en couple, soit ils sont seuls, et ça fait énormément de véhicules qui, je dirais, passent par le même endroit. Alors bon, je ne vais pas jeter la pierre aux gens. Derrière, il y a aussi des transports qui sont organisés en bus pour se rendre sur ces deux gros pôles de travail. Mais bon, ça ne capte qu'une partie de cette population. Le restant ne trouve pas forcément son bonheur. Mais là, on sort du cadre de la DLVA, puisque comme c'est un transport qui sort de notre territoire, il ne dépend pas de nous. C'est donc la région qui s'occupe de ce transport-là, puisque, je dirais, ça traverse plusieurs territoires qui n'ont pas forcément une coopération sur le transport.
La galerie de la mode, essai encourageant à Digne.
Succès d'une boutique à l'essai en centre-ville. Soutenue par Initiative Alpes-Provence, la gérante de la boutique de prêt-à-porter située rue de Lubac, la galerie de la mode, a reçu la visite de la préfète Violaine Desmarais. Jean-François Gonidec, président d'Initiative Alpes-Provence, expose le fonctionnement du concept au micro d'Odile Frison. Vous entendrez ensuite la gérante de la galerie de la mode.
On développe des programmes d'une part pour les petites entreprises d'aide en fait à la création, donc des programmes d'abord d'accompagnement, mais des programmes aussi de soutien avec des prêts d'honneur. L'intérêt pour les créateurs, c'est que ces prêts d'honneur garantissent un accompagnement avec les prêts bancaires derrière, puisque notre taux de succès à 3 ans des entreprises est assez exceptionnel, puisqu'on est autour de 93%. Mais nous avons toute une activité à côté, qui est une activité d'aménagement territorial pour en fait nos zones ZRR, nos zones QPV, puisqu'on accompagne des programmes qui ont pour but en fait de créer de l'entrepreneuriat sur ces zones. Donc avec des programmes comme la boutique à l'essai, nous sommes devant une boutique là qui a été soutenue et qui a un bail précaire. Des programmes aussi de création sur des zones vraiment QPV. Alors là, on est sur des créations d'emplois souvent personnels, mais aussi des éléments qui sont plus fédératifs avec des maisons d'entreprise, hein, comme la Fabrique Entreprendre que l'on a ici. On oriente des programmes aussi sur les jeunes aujourd'hui, pour la création, des programmes pour les femmes. Tout ça est basé en fait sur, bien sûr, une équipe de salariés, de 18 salariés, mais surtout avec une équipe environ de 300 bénévoles qui accompagnent nos créateurs. Ce sont des bénévoles qui sont des anciens aidés, donc souvent qui portent en fait des métiers, donc ils aident leur équivalent sur d'autres territoires. Des gens aussi qui sont des spécialistes en fait de la création, donc des experts comptables, des notaires, des banquiers, des chefs d'entreprise de plus grande taille. C'est le cœur en fait de notre action, et on est ravis de partager avec Madame Préfète et Madame la Maire aujourd'hui ce que l'on fait, puisque on est une organisation qui a pour but d'accompagner opérativement en fait tous ces créateurs. Voilà en quelques mots ce que l'on fait.
Alors les boutiques à l'essai, ça fait partie de l'initiative Alpes-Provence ?
Oui, tout à fait. Alors on développe ce programme sur différents territoires, hein, sur la vallée de Lubaye, sur PAA, donc Digne et ses environs, aussi sur Manosque. Le but en fait, c'est de donner la possibilité pour un créateur de boutique qui n'a pas forcément le recul, l'expérience ou la sûreté en fait de son projet, de pouvoir tout simplement le tester. Le tester en termes de qu'est-ce que c'est ce métier ? Est-ce qu'il m'intéresse vraiment ? Est-ce que je suis fait pour ça ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse en fait pour développer mon affaire ? Et au bout du bout, est-ce que finalement je peux payer un bail, en vivre, et arriver en fait à développer ma propre boutique. Donc l'idée, c'est pendant 6 mois de tester. Ça peut être d'ailleurs renouvelé une autre fois, et donc on peut aller jusqu'à 1 an. Ce qu'on cherche à faire, c'est bien sûr les pérenniser. Et on est plus que content puisque dans les programmes que l'on a fait depuis 3 ans, on arrive à peu près à 2/3 de nos boutiques à l'essai qui sont en fait pérennisées. Donc ils restent pour la plupart du temps dans le même local. C'est bien sûr aussi un outil d'aménagement du territoire important puisqu'on agit à la fois sur les centres-villes, hein, dans le cadre des programmes par exemple Ma Petite Ville de Demain, mais on agit aussi sur des communes rurales, hein, sur lesquelles on sait très très bien que le commerce ou les deux commerces qui vont être en fait sur la commune sont vraiment importants pour laisser la vie. Et quand il y a un local qui est disponible, eh bien on essaye avec la communauté d'agglo et le maire de trouver en fait une solution qui correspond aux besoins des habitants, hein, locaux. Alors ça peut être beaucoup de choses, ça peut être une boulangerie, ça peut être un magasin de mode, ça peut être plein de choses différentes, mais qui correspond en fait à des besoins qui sont sur le territoire où cette boutique pourrait s'installer.
Par rapport aux propriétaires, comment on en vient, quelles sont les aides pour motiver aussi le propriétaire
En fait, on va négocier avec le propriétaire, hein, avec un bail précaire. Le but pour lui, c'est qu'il pérennise ce bail derrière et qu'il puisse en fait revenir à un taux de location qui est son souhait. Et donc, on va avoir en fait une convention de bail précaire tripartite avec l'organisme des boutiques à l'essai national, avec bien sûr Initiative, avec un représentant de la collectivité locale, puisque c'est soutenu en fait par les mairies, et le créateur en lui-même. Et on va en fait construire là-dessus. Nous, on va l'accompagner derrière en fonction du développement de son affaire, avec des prêts personnels, mais aussi dans le cadre de cette boutique, avec un programme spécial qui s'appelle Programme Remarquable, où on va en booster au fur et à mesure que son affaire prend forme, les possibilités. La plupart du temps, les gens qui vont ouvrir ces boutiques sont des gens qui connaissent peu l'entrepreneuriat, mais aussi qui ont des très faibles moyens et qui ne savent pas mobiliser des ressources. Donc, sur les premiers mois, mobiliser des ressources d'aide ou des ressources de prêt remboursables beaucoup plus tard, c'est un élément essentiel pour faire en fait décoller le commerce. Et on est ravis en fait de cette galerie de la mode parce que c'est un bon exemple. Elle a été accompagnée pendant maintenant 1 an et elle a décollé. On a pu en fait, dans les différentes strates de son développement, à la fois la conseiller, mais aussi la soutenir avec des aides, hein, qu'on s'est amenées et des prêts qu'on s'est amenés.
Sandra Oudraogo, la responsable et propriétaire du magasin La Galerie de la Mode.
La Galerie de la Mode, donc installée 18 rue de Lubac. Vous faites partie des boutiques à l'essai.
Oui, des boutiques à l'essai depuis octobre 2019.
Comment vous vivez la chose au bout de 6 mois?
Au début, le fait que le bail a été bien négocié, ça m'a beaucoup aidé pour le lancement. Mais bon, après, il a été gentil, le bailleur, il a poursuivi avec mon contrat pro. Donc, ça m'arrange bien. Depuis, ça va. Bon, à cause du Covid, c'est un peu compliqué. Mais heureusement, comme il y a eu le soutien, on a eu un soutien financier aussi de la part de l'initiative après les nombreux confinements. Bon, ça va, on se maintient. On s'accroche.
Enfin, vous avez eu les 6 mois plus...
Les 6 mois plus les 6 autres mois et là j'ai fini. Là j'ai fini, là ça fait bientôt 2 ans, ben, 2 ans là, la deuxième année.
Donc qu'est-ce qui va changer pour vous à partir d'aujourd'hui?
Je crois que l'accompagnement se termine, mais bon, elle m'a dit, hein, la responsable, elle m'a dit quand il y a un souci d'appeler, il n'y a pas de souci. Ils me renseignent, ils m'accompagnent comme ils peuvent, quoi.
Passer donc en bail commercial?
En bail commercial, je passe en bail commercial, mais bon, normalement, il ne me change pas grand-chose par rapport à la situation qu'on a traversée, pour me laisser un peu plus de temps pour bien me poser, quoi. Parce qu'au final, j'ai ouvert avec tout ce qui se passe et...
C'était pas les meilleures conditions.
C'était pas les meilleures conditions du tout. Heureusement qu'il y avait Initiative d'ailleurs, hein, parce que si c'était comme ça toute seule, je sais pas si j'aurais tenu vraiment.
Vous avez pu fidéliser une clientèle. Quelle est votre clientèle?
J'ai pu fidéliser la clientèle quand même. C'est la clientèle, c'est la trentaine chez les femmes et les garçons un peu plus jeunes. Et là, depuis la rentrée, j'ai commencé à faire les enfants aussi un peu. Oui, j'ai mes clients fidèles qui passent régulièrement. C'est grâce à eux que je tiens d'ailleurs.
Donc c'est un bilan plutôt positif. Aujourd'hui, vous allez avoir la visite de la préfète. Ça vous impressionne?
Un peu quand même. Mais bon, ça fait plaisir de voir qu'il s'intéresse à ce qu'on fait et que ça nous encourage.
Le trail de Gréoux-les-Bains, c'est ce dimanche 10 octobre.
C'est dans des paysages magnifiques que l'épreuve sportive va se dérouler. Les participants s'élanceront sur 2 distances avec des parcours dessinés par Running Greux. Une course conviviale mais également solidaire puisqu'une partie des inscriptions sera reversée au dépistage du cancer du sein car nous sommes en plein octobre rose. L'information va circuler. Florine Renard est à la tête de l'organisation de cette course.
Florine Renard, le trail de Gréoux-les-Bains, c'est ce dimanche. Vous êtes prête ?
Oui, ça y est, on est prêt à accueillir nos coureurs.
Vous êtes à quelle édition de cette course ?
Troisième édition, plutôt encourageante. On a réussi à faire l'édition 2020, donc ça, on était plutôt fiers de nous. Et puis là, une édition 2021 qui s'annonce correcte.
Avec deux parcours particuliers ?
Alors, on a deux parcours de trail, un 22 km et un 11 km, où là, les personnes vont être chronométrées. Et ensuite, un parcours randonnée pédestre, où les gens y vont pour le plaisir découvrir les alentours de Gréoux.
C'est une course pour des amateurs, mais également pour des passionnés ?
Oui, tout à fait, tout le monde s'y retrouve. Les très bons coureurs vont prendre un énorme plaisir et vont aller vite. Après, les débutants vont trouver tout aussi bien ce parcours, je pense, avec beaucoup de petits chemins, des paysages très jolis. Tout le monde y trouvera son compte.
Ça nous permet de parler effectivement du territoire. Les alentours de Gréoux-les-Bains se prêtent bien à des courses pédestres.
Tout à fait. C'est vallonné. Il y a quand même suffisamment de dénivelé et surtout, il y a énormément de chemins à faire découvrir. Et ça, c'est vraiment chouette.
Comment se passent les inscriptions ? Est-ce que c'est gratuit et est-ce qu'on peut encore s'inscrire ?
Les inscriptions se font en ligne sur kms.fr. On peut encore s'inscrire jusqu'à la veille sur Internet. C'est payant pour tous les parcours. Le point fort de notre trail, c'est que déjà, je pense, les prix sont abordables. Et en plus, on reverse 1 euro au dépistage du cancer du sein pour ce mois d'octobre. Si je vous dis pas de bêtises, le 22 km est à 17 euros et le 11 km à 12 euros. Et la marche est à 8 euros.
Vous-même, vous organisez souvent des courses de cette manière ou d'autres randonnées ?
Alors moi, à titre personnel, je travaille pour une fédération sportive. Donc oui, effectivement, on organise d'autres manifestations sur le territoire, notamment à Digne, à Orcières-Merlette dans quelques week-ends, au titre du coup plutôt personnel puisque je travaille pour l'UFOLEP.
Je suppose que ce dimanche, vous allez courir, mais pas sur la piste.
Oui, tout à fait. Là, je vais courir après mes bénévoles pour les motiver. Et puis, je pense qu'on est bien rodés maintenant. Trois éditions, ça va. Ça va nous permettre de faire une édition correcte.
Est-ce que vous avez des soutiens institutionnels ?
Alors, on est énormément soutenus par la commune de Gréoux-les-Bains et de Saint-Martin-de-Brome, qui sont nos deux partenaires forts cette année. Ensuite, on a le soutien de nos partenaires pour Octobre Rose, le dépistage du cancer Sud-PACA, la CPTS de Gréoux-les-Bains qui vont énormément nous aider pour développer ce côté Octobre Rose et soutenir la cause du cancer du sein.
Vous avez l'habitude de travailler avec justement les services de dépistage ?
Ça fait 3 ans qu'on les soutient. C'est la première année où ils seront vraiment présents sur le site du trail. Donc c'est cette année où vraiment ils vont pouvoir parler avec les coureurs et les marcheurs du dépistage du cancer.
De l'information donc sur le territoire et avec vos participants, mais aussi avec le public.
Tout à fait. Ils seront là toute la journée avec nous pour échanger avec les participants et le public. Ils ont un stand sur le lieu du départ au parc Morellon et ils seront aussi présents lors de la marche, dans la marche, pour échanger avec les marcheurs.
Bleu, célébration de la mer par l'association Carouane.
Après les terribles et polluantes inondations de ce début de semaine, l'art va redonner vie et sens à la Grande Bleue. Au bout, la mer. C'est une manifestation qui animera la Canebière, artère mythique du cœur de Marseille, 3 fois par an. La mairie des 1er et 7e arrondissements a initié l'organisation d'un tel événement. Agnès Fréchel, adjointe aux cultures et aux mémoires, explique cette volonté d'offrir aux habitants un dimanche animé à l'horizon de la Méditerranée. La première édition bleue, dont la direction artistique a été confiée à l'association Carouane, a lieu ce dimanche 10 octobre, toute la journée, dans l'espace public et plusieurs lieux, de la Chambre de commerce et d'industrie jusqu'au MUCEM. Au micro de Colline Juté, la directrice de Carouane, Anne Guillot, donne des détails sur cette journée de célébration de la mer.
Mais d'abord, Agnès Fréchel.
Je suis Agnès Fréchel, je suis adjointe aux cultures et aux mémoires à la mairie du premier secteur de Marseille.
Et vous initiez cette manifestation au bout de la mer qui va être un rendez-vous trois fois par an.
Avant nous, ici, il y avait les dimanches de la Canebière qui était un grand événement populaire avec ses qualités et ses défauts. On avait envie de reprendre l'idée et de la transformer en faisant peut-être quelque chose de plus exceptionnel dans chaque édition, en faisant moins d'éditions, mais en faisant quelque chose de plus exceptionnel, mais aussi en lui donnant un très fort aspect scientifique et littéraire. Pour nous, la culture autour de la ville doit penser la ville, doit réfléchir la ville et doit aussi faire appel à nos sens. Donc les arts, les sciences, la littérature, tout ça autour de la mer, parce que nous sommes des citadins marins. Et cette chose-là, il faut vraiment qu'on en prenne conscience pour arrêter de la...
Et vous pensez que l'action culturelle, comme ce qui va avoir lieu ici sur la Canebière, donc accès gratuit au grand public, ça peut rapprocher le citoyen, la citoyenne de la protection de la mer Méditerranée?
J'en suis certaine. Je crois qu'il n'y a que par le sensible qu'on change. Je pense qu'on est obligé de ressentir les choses pour arriver à changer quelque chose en soi. Et que l'intellect ou la raison ou même la consigne qui nous est donnée de l'extérieur ne suffit pas. Ou en tous les cas, pas quand on est adulte, qu'il faut qu'on ressente les choses et qu'il n'y a rien de mieux que les artistes pour nous faire ressentir les choses, pour nous faire ressentir combien la mer est fragile. Je crois qu'il n'y a rien de mieux qu'avoir un funambule qui traverse la mer entre deux mâts et qui prend ce risque-là, parce que ce risque-là nous fait frémir avec lui, et quand on frémit, on sent mieux.
Anne Guillot, je suis directrice de Carwan. Carwan, ça veut dire caravane. C'est l'origine du mot perse de caravane, qui veut dire qu'on va au devant du public pour porter des manifestations culturelles dans l'espace public.
Et là, vous allez au devant du public pour la manifestation bleue qui aura lieu le 10 octobre. Alors pourquoi bleu ?
Alors bleu, oui, effectivement, c'est un vrai désir de parler de la mer, une célébration de la mer, mais sous l'angle de l'environnement. Essentiellement parce que je suis convaincue que nous, Marseillais, en regardant la mer, en la fréquentant, c'est à partir de là qu'on peut se rendre compte de combien nous devons vivre autrement sur notre planète. Donc bleu, c'est une célébration, donc il y a plein de spectacles très joyeux, c'est vraiment pour toutes les familles. Il y a des spectacles à la fois de cirque, des personnages bizarres qui vont se balader avec, en guise de tête, des aquariums avec des poissons rouges. Mais il y aura aussi le Ballet National de Marseille qui fera une interprétation d'une des phrases chorégraphiques très belles que nous avons vues cet hiver. Mais aussi des expositions donc sur la mer, bien sûr, aussi bien à la mairie qu'au musée d'histoire de Marseille. L'écoute de podcast, ça c'est quelque chose qui est une signature de Carwan, où on s'installe dans des transats, on a des super cocktails fruités et on écoute des soit Nicolas Floch, soit des navigatrices qui nous parlent de leur façon d'aborder la mer. Le soir, on va au Mucem avec à la fois un clin d'œil très marseillais qui est Clean Mike Alank, fait par notamment réinterprété par Pan Gouze, et mais aussi L'homme à manger la terre de Jean-Robert Vialet, un très beau documentaire. J'ai dû oublier plein de choses, mais le 10 octobre, ce dimanche, de 10h du matin aux 10h30 jusqu'à 23h au Mucem, bienvenue pour parler de la mer et réfléchir sur ce qu'elle représente pour nous.
Et comment vous avez créé cette programmation en fédérant du coup plusieurs acteurs locaux ?
Alors ça, c'était vraiment un choix absolu de Carwan, c'est-à-dire que la mer appartient à tout le monde et chacun a un point de vue, déjà citoyen, mais aussi de compétences. Et on est à Marseille dans une ville scientifique, donc il était indispensable pour moi que la science soit autour de la table. Effectivement, l'Institut PTA, c'est là qui va animer des rencontres et des expositions, mais aussi la littérature, puisque la mer, c'est notre miroir, comme dit Baudelaire, et il y a plein d'auteurs, donc on s'est tourné vers le festival Les Beaux Jours. Il y a Capitale de la mer aussi, pour porter une biennale qui s'appellerait donc, comme une capitale européenne de la culture, une capitale de la mer, donc il permettra des sorties en mer. 20 bateaux qui vont tourner. Il faut réserver avec un prix. Donc vraiment que tout le monde puisse se rassembler, et ça crée une sorte de boule de neige, d'engrenage, de partenariat. Au bout d'un moment, on a dû dire stop parce que le 10 octobre, c'est demain. Mais je suis très heureuse d'avoir pris ce parti. Nous, Carwan, nous avons porté notre savoir-faire, c'est-à-dire rassembler sur l'espace public et choisir les spectacles. Et après, c'est agréger les compétences des uns et des autres, et notamment aussi de Marseille-Provence Culture, donc qui, dans le sillage de l'Olympiade culturelle, c'est-à-dire l'annonce de l'accueil des épreuves de voile aux Jeux Olympiques, des Jeux Olympiques à Marseille, MP Culture, qui nous a permis de solliciter, j'avais très envie depuis très longtemps de travailler avec un funambule incroyable qui s'appelle Théo Sanson. Et Théo Sanson, bon, non seulement c'est un funambule, et un funambule qui parle quand il fait sa performance, mais en plus très engagé sur la préservation de la mer. Donc tout à cette cohérence et cette ligne qui rassemble tout le monde.
C'est la fin de ce magazine. Merci François. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Force 7.
Tout à fait. Merci Olivier pour la régie. À la semaine prochaine.